La bonne question pour vous. Est-ce que le livre des Proverbes contredit la science? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et remplie de sagesse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quelle joie pour moi de constater qu'on est rendu au livre des Proverbes. Je suis convaincu qu'on va tous grandir en connaissance au cours des prochains jours, surtout la connaissance de la sagesse et de l'amour de Dieu envers nous. Alors voici les questions qu'on va poser à ce livre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un proverbe et à quoi sert-il? Est-ce que le livre des Proverbes contredit la science? Y a-t-il des sentences immorales dans le livre des Proverbes? Est-ce que les proverbes énoncés dans ce livre se contredisent? Qu'est-ce qui peut nous aider à bien interpréter les proverbes? Est-ce que le livre des proverbes est toujours d'actualité? Quel est l'avantage de marcher selon les principes du livre des proverbes? Est-ce que n'importe qui peut comprendre les proverbes? Restez avec nous, on est sur le point de recevoir tout un enseignement des Saintes Écritures par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu et remercions-le pour sa parole qui enrichit nos vies. Prions. Oh oui, Seigneur, ta parole enrichit nos vies. On n'est jamais les mêmes après qu'on a entendu prêcher tes Saintes Écritures, après qu'on les a lues. Alors transforme nos vies aujourd'hui par tes Saintes Écritures. Parle-nous par la bouche de ton serviteur. On t'écoute, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous débutons l'étude d'un nouveau livre, un livre de l'Ancien Testament, le livre des Proverbes. Ce livre est un livre poétique de la Bible. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont placés ensemble dans l'Ancien Testament, car ces livres sont tous écrits en poésie hébraïque. Le livre des Proverbes est le livre de la sagesse. Salomon est l'auteur de trois de ces livres. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Proverbes est le livre de la sagesse. Ecclésiaste traite de la vanité, c'est-à-dire ce qui est vain et futile. Le Cantique des Cantiques a pour thème l'amour. Il relate une histoire d'amour qui illustre l'amour du Seigneur Jésus pour son Église. L'amour est le juste milieu entre la sagesse et la vanité. Salomon était un expert sur ces trois sujets. La parole de Dieu dit de lui, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 1 Roi chapitre 4 verset 32. Seul un de ces cantiques nous fut transmis. Le livre des Proverbes contient peu des sentences de Salomon. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Citation de 1 Roi, chapitre 4, versets 33 et 34. Le proverbe est une technique très ancienne d'enseignement, chers amis. Dans le livre des Proverbes, nous observons la sagesse de Salomon. Un proverbe est un dicton qui exprime clairement une vérité de façon concise. Les proverbes sont des phrases courtes apprises à la suite d'une longue expérience. Ils sont formulés d'une façon frappante, facile à mémoriser. Ils expriment une philosophie fondée sur l'expérience où ils sont des règles de conduite. Un proverbe est aussi appelé un dicton, une vérité, une maxime, une sentence. Le proverbe est une technique très ancienne d'enseignement. Elle existait bien avant la rédaction de ce livre. Le verset clé de ce livre se trouve au premier chapitre. la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1er, verset 7. De nombreux proverbes sont originaires de l'Orient. Salomon a dû collecter des proverbes de plusieurs sources différentes. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Voici encore ce qui vient des sages. C'est ce que nous lisons dans les Proverbes 22, verset 17, Proverbes 24, verset 23. Il fut l'éditeur des Proverbes et l'auteur de certains d'entre eux. Proverbes de Salomon. Voici encore des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Proverbes 10, verset 1er et Proverbes 25, verset 1er. Une partie du travail d'édition fut faite sous le règne d'Ézéchias. De plus, Agur, un sage inconnu, est l'auteur du chapitre 30, et Lemuel, l'auteur du chapitre 31. Donc, nous avons une collection inspirée de proverbes écrits par Salomon ou provenant d'une autre source, mais sur lesquels Dieu a mis son sceau d'approbation. Si nous comparons le livre des proverbes aux autres collections de proverbes, nous notons une grande différence. Voici quelques caractéristiques intéressantes du livre des Proverbes. Les Proverbes est un livre ancien qui ne contredit pas la science. Premièrement, dans les Proverbes, nous ne trouvons rien qui contredit la science et qui peut être considéré comme une observation inexacte. Par contre, un écrit apocryphe, l'épître entre autres de Barnabas, mentionne un être mythique, le phénix. Cet oiseau s'enflamme et ensuite ressuscite de ses cendres. Un écrit apocryphe est un écrit religieux mais qui n'a jamais été reconnu comme étant inspiré, donc qui n'a pas été inclus dans la Bible. Nous ne trouvons pas d'allusion à la mythologie dans le livre des Proverbes, ni ailleurs dans la Bible. Les Proverbes est un livre ancien qui ne contredit pas la science. Ce fait devrait nous aider à conclure que le livre est inspiré par Dieu. Deuxièmement, le niveau moral du livre des Proverbes est très élevé. Nous ne trouvons pas de sentence immorale comme c'est le cas dans certains autres écrits. Justin Martyr a affirmé que Socrate était un chrétien qui a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, cela est impossible. Les admirateurs de Socrate affirment qu'il affichait une moralité exemplaire. Cependant, Socrate a donné des instructions afin que les prostituées sachent se conduire. Le mieux que nous puissions dire de Socrate, c'est qu'il était amoral. Il n'avait pas de valeur morale. Les proverbes énoncés dans le livre ne se contredisent pas. Troisième point, les proverbes énoncés dans le livre ne se contredisent pas, car ce n'est pas le cas avec les proverbes des hommes. Voici deux paires de proverbes contradictoires. Je les ai tirés des pages roses du dictionnaire Larousse. Premièrement, dans le doute, abstiens-toi. Et voici le second, qui contredit. Qui ne risque rien à rien. Deuxième exemple. À père avare, fils prodigue. Et le second, tel père, tel fils. Les proverbes des hommes se contredisent, car ils ont des idées différentes. Mais il n'y a aucune contradiction dans le livre des proverbes, car il est inspiré de Dieu. Il semble ne pas y avoir d'arrangement particulier à la collection de proverbes de ce livre. Cependant, certains croient que les proverbes racontent une histoire. C'est le cas de J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes. Nous vous ferons remarquer ce fil conducteur alors que nous progresserons dans le livre. Ce livre nous présente un jeune homme qui débute dans la vie. Il reçoit sa première leçon au verset 7 du premier chapitre, soit le verset clé du livre. Nous le verrons grandir. Les conseils que nous retrouvons dans le livre des Proverbes transcendent tous les âges et toutes les générations. Que nous vivions lors de l'époque de l'Ancien Testament ou de celle du Nouveau Testament, dans la vieille Jérusalem ou dans la Nouvelle, les énoncés du livre sont toujours vrais. C'est un livre utile à tous les lecteurs, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur race, leur statut social. Le livre des Proverbes nous enseigne la sagesse de Jésus-Christ. Des organisations chrétiennes ont autrefois distribué des copies du livre des Proverbes aux jeunes hommes, car il énonce d'excellents principes. Quelqu'un peut s'objecter et dire « Mais ce livre ne présente pas l'Évangile ». L'Évangile se trouve dans ce livre. La sagesse que nous découvrons dans ce livre est celle du Seigneur Jésus-Christ. Ce livre n'est pas qu'une collection d'énoncés n'ayant aucun rapport entre eux. Ce livre ne passe pas du coq à l'âne. C'est un livre sensé, et il est bien structuré. Salomon disait ceci au sujet de son propre enseignement. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Voici maintenant quelque chose qui va rendre l'étude du livre des Proverbes très intéressante. Ce sera une expérience excitante. Dans les Proverbes, nous trouvons un croquis de chaque personnage biblique. Je vais vous en indiquer quelques-uns au cours de l'étude du livre, et vous aurez le plaisir d'en découvrir d'autres. Vous trouverez aussi des proverbes qui s'appliqueront à tous vos amis et vos connaissances. Mais n'oubliez pas de vous en appliquer quelques-uns. De plus, il serait peut-être préférable de ne pas dire à vos amis que vous avez trouvé un proverbe qui s'applique à eux. Il y a un proverbe pour chacun d'entre nous, donc nous pouvons avoir du bon temps en parcourant ce livre. Le parallélisme des idées aide à interpréter les proverbes. Le livre des Proverbes est écrit en poésie hébraïque. Cela signifie qu'il y a répétition des idées. La poésie hébraïque n'est pas formée de vers qui riment comme la poésie française. Des idées sont placées en parallèle, c'est-à-dire un énoncé est fait et à la proposition suivante, on reprend l'idée ou on exprime un contraste ou on amplifie l'idée. Nous observons trois types de parallélisme dans la poésie hébraïque. Voici un premier exemple, la répétition de l'idée en d'autres mots. La pensée du premier énoncé est reprise, mais formulée de façon différente. Entre autres, le Proverbe 19, verset 29. « Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. » Deuxièmement, un contraste dans le deuxième énoncé explique le sens du premier. Voici ce deuxième exemple. Proverbe 13, verset 9. « La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. » La vérité exprimée dans le premier énoncé est clarifié ou appuyé au moyen d'un contraste dans la deuxième proposition. Autrement dit, un contraste est fait entre la lumière des justes et la lampe des méchants. Troisième exemple. La deuxième proposition amplifie la pensée du premier énoncé. La pensée de la première phrase est développée dans la proposition suivante. Proverbe 20, verset 2. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pèche contre lui-même. Le parallélisme des pensées peut nous aider dans notre interprétation de la Bible. Par exemple, afin de prouver que la Bible est un livre scientifique, certains utilisent le Proverbe 4, verset 23, pour affirmer que Salomon enseignait que le cœur était une pompe qui fait circuler le sang. Cependant, ce n'est que près de 3 millénaires plus tard que la science aurait découvert ce fait. Le proverbe en question dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Par contre, si nous lisons le contexte de ce verset, Proverbe 4, versets 20 à 24, et que nous considérons le parallélisme des idées, nous nous rendons vite compte que Salomon ne parle pas d'un cœur de chair qui pompe du sang. Le mot « cœur » est employé métaphoriquement pour indiquer le siège de la volonté, de la pensée et des sentiments. Proverbe 4, verset 23 n'est donc pas un énoncé scientifique. Le livre des Proverbes sert à former les hommes de Dieu. En lisant 1 Roi, chapitre 4, versets 33 et 34, au début, nous avons remarqué que Salomon a beaucoup enseigné sur les sciences naturelles. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Certains sont peut-être déçus, parce que ces discours de Salomon ne furent pas préservés. Cependant, le but du livre des Proverbes n'est pas de former des hommes de science, mais des hommes de Dieu. Ce livre présente une vue exaltée de Dieu. Il traite de nombreux sujets afin que nous ayons une marche digne du Seigneur Jésus-Christ. Apprendre à vivre, à marcher avec Dieu. Le livre des Proverbes est toujours d'actualité. Parce que la nature humaine n'a jamais changé. Il donne des conseils au sujet de choses et de situations que nous rencontrons encore aujourd'hui. Le livre des Proverbes traite de la colère, de la bienveillance, de la bienfaisance, de la discipline des enfants, des méchants, de la crainte de Dieu, des insensés, de l'amitié, de la paresse, de la connaissance de Dieu, de l'oppression, de la prudence, des moqueurs, des querelles, de l'orgueil, de la tempérance, de la langue, des gains malhonnêtes, des richesses, des femmes mauvaises, des femmes exemplaires. Nous trouverons tous quelque chose qui peut nous aider ou que nous pouvons nous appliquer dans ce livre. Peut-être pourrez-vous conseiller un parent ou un ami avec l'aide de ce livre des Proverbes. Quoi qu'il en soit, ce sera une lecture et une étude fascinantes. De plus, ce livre a le mérite d'avoir été inspiré par Dieu. Évitons-nous des maux en marchant selon les principes de Proverbes? En marchant selon les principes de Dieu présentés dans le livre des Proverbes, nous pouvons nous éviter bien des maux et bien des souffrances. Je l'ai déjà dit souvent et je le répète encore. Dieu nous instruit pour notre bien. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Il est notre Créateur et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 21, verset 2. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9. Parfois, nous voulons bien faire et nous sommes sincères, mais nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, et notre comportement n'est pas conforme à son enseignement. Nous avons premièrement besoin de demander à Dieu de sonder nos cœurs. Le roi David le faisait. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de faire cette même prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, les versets 23 et 24. Donc, où pouvons-nous trouver un meilleur guide que dans la parole de Dieu, dont le livre des Proverbes fait partie? Par exemple, nous connaissons tous sûrement quelqu'un qui se sert de la colère comme mesure défensive s'il se sent attaqué ou pour essayer de contrôler son entourage. Ce type de personne se fait énormément de tort. 18 versets traitent de la colère dans le livre des Proverbes. Les conséquences de la colère, une meilleure façon que d'utiliser la colère, que faire avec une personne colérique. Certaines thérapies proposées par des psychologues consistent à demander à une personne en colère de se défouler en frappant quelque chose. Peut-être même une chose qui lui rappelle la personne contre laquelle elle est en colère. Vous ne trouverez pas un tel conseil dans le livre des Proverbes. Vous trouverez plutôt une méthode enseignée sous l'inspiration de Dieu et qui fut éprouvée au cours des années. Aujourd'hui, les médias font la promotion de la beauté, Pour réussir dans le milieu artistique, une femme doit être belle. En général, on choisit de belles femmes pour les rôles clés dans la plupart des films. On valorise un concept de la beauté. Les hommes cherchent avant tout des belles femmes. Saviez-vous qu'un proverbe touche ce sujet? Jeunes hommes, si vous lisez tous les proverbes qui traitent de la femme, vous y penserez peut-être sérieusement avant de choisir une femme, premièrement pour sa beauté. Bien des hommes qui ont épousé une femme principalement pour sa beauté s'en sont mordus les doigts par la suite. Une petite suggestion. Si vous avez le logiciel La Bible Online ou une concordance, je vous suggère un petit exercice. Prenez un mot tel que colère, femme ou paresseux et lisez tous les versets de proverbes dans lesquels se trouve le mot que vous avez choisi. Vous serez surpris de voir ce que vous pouvez découvrir en faisant cela. Cela vous permettra de mieux percevoir la richesse du livre des proverbes et de constater que c'est un livre qui est loin d'être dépassé. À la prochaine émission, nous débutons l'étude du texte lui-même. Cependant, ce livre s'adresse aux enfants de Dieu. Pour l'apprécier à sa pleine valeur et pour qu'il transforme vos vies, vous devez avoir en vous l'Esprit de Dieu, avoir confiance en Dieu. Il faut prendre conscience du fait que nous sommes des êtres pécheurs et de ce fait, des êtres condamnés. Certains se demandent s'ils vont se mériter le ciel ou l'enfer. En fait, vous ne travaillez pas pour l'un ou l'autre. Le choix est déjà fait. À cause de notre péché, nous sommes sous la colère de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 36. Chers amis, nous avons tous péché, sans exception, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10 à 12. C'est le diagnostic de notre grand Dieu Créateur, de la façon dont il voit l'humanité. Et quelle est la solution de Dieu au problème du péché? Son Fils Jésus-Christ. Premièrement, il faut se repentir de nos péchés. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ensuite, le Seigneur Jésus nous sauve de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il a pris sur lui la punition méritée par nos péchés. Nous recevons gratuitement ce don en faisant confiance à Jésus et en acceptant de lui le don de la vie éternelle. Nous l'avons vu en citant Jean chapitre 3, verset 36. Il faut croire le Fils, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Acceptez le salut que Dieu nous propose en son Fils Jésus-Christ est le seul moyen d'entrer au ciel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Chers amis, acceptez le don de Dieu. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Proverbes chapitre 1er, versets 1 à 5.
Oh, merci beaucoup, Régent. On en est juste au commencement du livre des Proverbes et déjà, on apprend de grandes choses. Gloire à Dieu pour sa parole merveilleuse qui transforme nos vies. Mes amis, je me rappelle la première fois que j'ai lu le livre des Proverbes. On m'avait conseillé de lire le Nouveau Testament deux fois avant de lire l'Ancien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais puisque j'avais faim et soif de la parole de Dieu, ça n'a pas pris grand temps avant que je lise l'Ancien Testament et que j'en arrive au livre des Proverbes. Et tout en lisant, j'ai passé une remarque. Je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi, mais voici ce que j'ai dit. Je ne serai jamais capable de mettre tout ça en pratique, j'en suis presque découragée. Voilà la réaction que j'ai eue, mais ce n'a pas été bien long avant que je réalise que la grâce de Dieu me suffisait, puisque sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et depuis ce temps, le Seigneur m'enseigne, étape par étape, ce qu'il attend de moi. Et le livre des Proverbes m'apprend à me connaître moi-même. Par exemple, Régent a mentionné le Proverbe 21, verset 2, où il est écrit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais que celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ce qui nous a amené au livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 9, où il est écrit que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Je me suis donc rendu compte que même si je suis sincère, mon comportement n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Ce qui m'amène, tout comme David le faisait, à dire au Seigneur, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous pouvez trouver ça dans le psaume 139, au verset 23 et 24. Mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il t'arrive de demander à Dieu de te montrer s'il y a un péché que tu ne vois pas dans ta vie? Moi, je le fais. Je demande même à Dieu de me pardonner avant qu'il me le montre. Dans le psaume 19, au verset 13, David dit, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Mon ami, le Seigneur nous aime, mais il déteste le péché. Demandons-lui qu'il nous aide à détester le péché comme lui le déteste, pour qu'on puisse jouir de sa présence et de ses bénédictions qu'il aime tellement nous accorder. Et toi, mon ami, sais-tu ce que c'est de jouir de la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? Régent a terminé aujourd'hui en disant que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Puis il a ajouté qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Veux-tu être sauvé, mon ami? As-tu la foi? Crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour payer ta rançon, afin que tu sortes de la prison du péché et que tu prennes le chemin qui mène au ciel? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, ta dette est payée. Reconnais que tu es un pécheur perdu et repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. »
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.